Vous pouvez garder utilement ce texte sous les yeux. Le psaume 73, verset 1er. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Oui, Dieu est bon pour son peuple. C'est ce que nous chantons dans nos milieux évangéliques, par exemple, et c'est prévu même pour tout à l'heure, mon Dieu est si bon, il prend bien soin de moi. Ce Dieu plein d'amour, sais-tu qu'il pense à toi? Dieu est bon pour son peuple. Mais parfois, nous risquons d'avoir du mal à le croire. Je vous invite à prier. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ce psaume 73, et nous te prions de nous donner de croire dans notre fort intérieur que tu es bon pour nous. Donne-nous de faire face à nos doutes à ce sujet, si nous en avons quelques-uns. Donne-nous de pouvoir affirmer avec confiance que c'est un privilège inouï que de t'appartenir. C'est ce que nous te demandons, au nom de Jésus. Amen. Lorsque j'étais à l'université en Angleterre, je suis devenu chrétien et je me suis lié d'amitié avec un autre chrétien dans le club d'athlétisme. Lui, c'était un Sud-Africain assez baraqué. Et il m'a aidé à grandir dans ma foi. Il m'a offert l'un des premiers livres chrétiens que j'ai lus. Nous nous sommes réunis de temps à autre pour prendre petit déjeuner ensemble. Nous avons prié régulièrement ensemble. Et en 1988, nous avons quitté l'université tous les deux et nous avons commencé à poursuivre tous les deux une carrière dans le domaine de la finance. Lui, au Cap, en Afrique du Sud, moi-même dans la City de Londres. Mais nous sommes convenus de garder le contact par courrier, c'était avant l'époque des emails, et nous sommes convenus également de prier chaque semaine l'un pour l'autre. Au bout de 3 ou 4 ans, mon ami a cessé de répondre à mes lettres. Et puis encore 2 ou 3 ans plus tard, c'était en 94, je pense. Je l'ai rencontré tout à fait par hasard dans l'une des grandes rues de la City de Londres. Il était venu à Londres pour affaires, accompagné par un collègue. Je ne me souviens plus de tous les détails, mais notre échange s'est déroulé à peu près comme suit. Nous nous sommes salués, nous nous sommes racontés dans les grandes lignes ce qui s'était passé dans notre vie respective. Et ensuite, je lui ai posé la question, et comment ça va avec le Seigneur? Sa réponse, écoute James, je suis heureux. C'est là ce qui compte finalement. Pour lui, il ne valait plus la peine d'être chrétien. À quoi ça sert d'être chrétien lorsqu'on peut déjà être bien heureux dans le monde? À quoi ça sert de s'imposer des obligations morales, des obligations vis-à-vis d'autres chrétiens, des obligations vis-à-vis du monde, des obligations de service chrétien? Est-ce que cela vous arrive parfois de vous poser la question? Une vie morale, la vie chrétienne vaut-elle vraiment la peine d'être vécue? Je ne sais pas s'il y a des personnes ici présentes qui ont déjà envisagé la possibilité de jeter l'éponge, de laisser tomber la vie chrétienne, comme mon ami sud-africain. Eh bien, si oui, ce psaume 73 est particulièrement pour vous. Mais je présuppose que la plupart d'entre vous visent à rester sur les rails dans la vie chrétienne. Et ma question pour vous est celle-ci. Vous êtes-vous dit, ne serait-ce qu'une seule fois, peut-être que je pourrais ne pas me donner la peine d'obéir à Dieu dans tel ou tel domaine par rapport à ce que je raconte concernant cette personne qui ne m'apprécie pas, vie de pensée, tricher à l'école, déclaration des revenus, jeter un œil à certains sites web malsains, ne pas me donner la peine de discipliner un enfant. Cela nous arrive-t-il de nous dire viser la sainteté maximale dans ce domaine, ça ne vaut pas forcément la peine. Ce qui est en jeu dans ce genre de raisonnement, c'est la question de savoir si nous croyons véritablement que Dieu est bon. Remettre en cause la bonté de Dieu remonte à l'épisode dans le Jardin d'Éden et est lié à l'essentiel du péché. Ce qui fait que ce psaume s'applique finalement à nous toutes et tous. Regardons donc la conclusion à laquelle l'auteur, le psalmiste, aboutit dans la première moitié du psaume. Il s'agit des versets 13 et 14. Le psaume 73, verset 13. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Tout le jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Vous voyez, j'ai vécu une vie morale, se dit-il, mais c'est en vain parce que cela ne mène à rien. En fait, c'est pire que cela. Cela mène à la souffrance. Avez-vous donc remarqué le lien qui existe entre ces deux versets 13 et 14? Le psalmiste souffre et la raison pour laquelle il souffre est parce que c'est un croyant. Sa logique est impeccable. Je souffre à cause de ma foi, donc ce n'est pas la peine d'être un homme de foi, un croyant. Et il se peut que vous soyez là ce matin en train de vous dire, en effet, ma vie chrétienne m'apporte beaucoup de peine. Votre emploi du temps est impossible, précisément parce que vous êtes chrétien ou chrétienne. Vous portez les fardeaux des autres parce que vous êtes chrétien et c'est pesant. Vous vous investissez dans la vie d'autres croyants qui sont parfois décevants, voire pénibles. Vous auriez un niveau de vie plus élevé si vous étiez non-croyant, peau de vin, travail au noir, et des difficultés financières vous pèsent peut-être. Certains croyants sont célibataires, précisément parce qu'ils sont ou elles sont chrétiennes. Certains croyants sont sous-estimés au travail, voire persécutés, précisément parce qu'ils ont visé à honorer Jésus. D'autres ont des problèmes à la maison du fait d'être chrétien, chrétienne, alors que d'autres membres de la famille ne le sont pas. Vous avez été courageux en annonçant l'Évangile, mais au prix de perdre des amis, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors, nous dit le psalmiste, réfléchissez bien. Vous avez la possibilité d'abandonner tout ça. Non seulement vous n'auriez plus toutes les difficultés que votre foi amène, Mais encore, vous jouirez de tous les bénéfices qu'apporte l'appartenance au monde. Venez avec moi et je vous montrerai à quel point cela pourrait être intéressant pour vous de faire partie du monde. Et dans la première moitié du psaume, le psalmiste regarde autour de lui et il remarque à quel point les méchants, c'est le mot qu'il emploie pour désigner ces personnes qui n'appartiennent pas au Seigneur, il remarque à quel point ces méchants, ces gens du monde sont heureux. Tout va bien pour eux. La preuve ? Eh bien, il nous invite à l'accompagner pour une visite guidée du musée du monde. Cette visite guidée commence au verset 3. Nous sommes prêts, allons-y pour notre visite du musée qui comprend 5 salles principales. D'abord, celle de la santé physique. La santé physique, verset 3. Car je jalousais les insensés en voyant la prospérité des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort et leur corps est replet. La santé des personnes de ce monde, super! Certes, elles n'ont pas toutes le même niveau d'énergie que Romelu Lukaku, Nafisa Tutiam, mais elles sont en forme car elles ont un abonnement à une salle de fitness et se soignent bien à spa. Et elles ont le temps de faire pas mal de sport, elles jouent au tennis le dimanche matin par exemple. Elles se nourrissent bien aux restos les plus chers et en ce qui concerne l'avenir, elles sont sereines ces personnes puisqu'elles ont accès aux meilleurs médecins et chirurgiens. Et leur assurance médicale couvre tous les domaines de santé, avec en plus remboursement express sous 48 heures. Voilà la première cause de la jalousie du psalmiste. Passons à la deuxième salle. L'assurance. L'assurance des personnes de ce monde. Ne tournons pas autour du pot. Les qualités, entre guillemets, que nous voyons dans cette salle sont l'orgueil. Et la violence, verset 6. Aussi l'orgueil leur sert de collier, la violence et le vêtement qui les enveloppe. Et le verset 8. Ils raillent et parlent méchamment, d'opprimés, parlent haut. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Autrement dit, ces gens agissent comme si la terre leur appartenait. Voire comme si les cieux leur appartenaient aussi. Quelle assurance! L'orgueil, la violence, des paroles injurieuses, n'est-ce pas là ce qui caractérise de nombreux dirigeants de ce monde? N'agissent-ils pas souvent par intérêt personnel? Ne jouent-ils pas souvent les bâtisseurs d'empire? Ne sont-ils pas même parfois prêts à permettre que leur peuple souffre? Mais ce qui tourmente le psalmiste, c'est que ces gens agissent de cette manière sans devoir subir des conséquences. Je vous invite à lire le verset 11. Et l'on dit, « Comment Dieu le connaîtrait-il? Y a-t-il même de la connaissance chez le Très-Haut ?» En effet, qu'est-ce que Dieu fait pour punir ces personnes? Souvent, la réponse semble être rien. C'est comme si Dieu ne savait même pas ce qui se passe. Mais attention, il ne faut pas croire que tout le monde déteste ces personnes. Au contraire, troisième salle, la popularité, la popularité. Jetez un coup d'œil au verset 10. Voilà pourquoi son peuple en arrive là, en avale l'eau. Abondamment. Ils ont de nombreux disciples, ces gens, des disciples qui boivent leurs paroles, comme lors des grands meetings politiques. Figurez-vous cela, vous parlez et la foule de vos partisans raffole de vous écouter, comme si vous étiez un homme politique fraîchement élu. Tout le monde aime être aimé et le psalmiste constate que le monde offre cette popularité quel contraste avec les croyants fidèles pour lesquels le monde a de la haine. Entrons rapidement dans la quatrième salle. Là, nous sommes frappés par la tranquillité de ces gens du monde. Vous ne voudriez pas terminer chaque journée en vous allongeant dans un jacuzzi? Il nous est dit dans le verset 12 qu'ils n'ont pas de soucis, pas de conscience sensibilisée, pas de problème au travail ni à la maison. Vous avez vu les photos dans les magazines, les couples beaux et heureux, très à la mode, devant leur château. On ne peut plus attirant. D'accord, ça leur arrive de passer par des accrochages avec le majordome ou avec le chauffeur. Mais en gros, pour eux, la vie est facile comme tout, leur avenir est assuré. Le psalmiste nous invite à le suivre rapidement dans la cinquième salle maintenant, où il nous montre la richesse de ces personnes. Verset 12 encore, à la fin du verset, ils accroissent leur richesse. Lorsque Athéna Roussel Onassis est devenue majeure, elle a bien accru sa richesse. Les cadeaux qu'elle a reçus pour son 18e anniversaire, je cite, « Un appartement sur la 5e avenue à New York, un autre, avenue Foch à Paris, 25 pétroliers, une maison à Monte-Carlo, des propriétés fabuleuses en Argentine, en Suisse, à Londres, une collection d'art, une collection de bijoux et la bagatelle de quelque 217 comptes bancaires, le tout vaguement estimé à 500 millions de dollars. Et le psalmiste se dit, intéressant, non? Ce ne serait pas un mauvais anniversaire? Bien plus, il est suffisamment honnête pour reconnaître qu'il est jaloux. Il a envie de faire partie du monde. Et cela arrive à bien des croyants de nourrir une certaine jalousie pour ces personnes du monde qui ont tellement de succès. Effectivement, la visite terminée, le bilan est clair. Être croyant, on pèse le pour et le contre. Le pour, le contre, on souffre. Appartenir au monde maintenant, on pèse le pour et le contre. Le pour, la santé physique, l'assurance, la popularité, la tranquillité, la richesse, on l'a vu. Le contre. Alors, le calcul n'est pas difficile. Et c'est ainsi que nous arrivons au verset 13 que nous avons noté tout à l'heure. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Être croyant, ça ne vaut pas la peine. Dieu n'est pas bon pour son peuple. C'est la fin de l'histoire. Au moins pour ce qui concerne la première moitié du psaume. Et puis, tout d'un coup, dans la seconde partie, le discours du psalmiste change complètement. Il fait demi-tour. Changement à 100%. C'est comme s'il avait été à un moment donné dans un train à destination d'Arlon et qu'il avait changé de trajet, changé de train et qu'il se trouvait maintenant dans un train à destination d'Ostende. Et combien il a honte de ce qu'il a dit dans la première partie. C'est comme s'il se cachait le visage entre les mains. Oh là 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 là. Il se critique sévèrement, verset 22. « Imbruti, se dit-il, ignare. » En parlant comme ça, j'étais, vous voyez, comme les bêtes. Nous, on dirait, je pense, j'étais vraiment bête. Et la question se pose, qu'est-ce qui déclenche ce changement de discours? Où est le déclic? Je vous invite à lire à partir du verset 15. Si je disais, je veux m'exprimer comme eux, voici que je trahirai la race de tes enfants. J'ai donc réfléchi pour comprendre cela. Ce fut pénible à mes yeux, jusqu'à ce que j'arrive au sanctuaire de Dieu. Alors j'ai compris le sort final des méchants. Après avoir tenu les propos de la première partie, le psalmiste se sent mal à l'aise parce qu'il sait qu'à force de continuer son discours, il risque d'égarer d'autres croyants. La première partie du psaume prise toute seule risque d'avoir des effets néfastes sur notre foi. Donc, si tout d'un coup, j'étais frappé d'une crise cardiaque à ce stade du message, ne vous inquiétez pas pour moi, je sais où je vais, mais prenez bien soin de Myriam et Clara, mais surtout priez pour Adrien qui aurait la charge de venir prêcher sur la deuxième partie du psaume. Je compterai sur toi et je compte sur vous toutes et tous maintenant pour ne pas rester sur la première partie du psaume, mais pour suivre le psalmiste dans les sanctuaires de Dieu, verset 17, puisque c'est en passant par là qu'il effectue son demi-tour. Entrer dans les sanctuaires de Dieu, qu'est-ce que cela veut dire? Pour le psalmiste, croyant à l'époque de l'Ancien Testament, cela voulait dire sans doute entrer de manière littérale dans le temple à Jérusalem pour s'approcher de Dieu. Pour nous chrétiens, il n'est pas question d'entrer dans un bâtiment où Dieu habite, on en a la preuve aujourd'hui. Et lorsque nous serons de retour dans notre bâtiment, il ne faudrait pas considérer qu'il s'agisse d'une maison du Seigneur ou quelque chose d'approchant. Non. Mais nous nous approchons bel et bien de Dieu. Comment? Par le biais de Jésus-Christ. Par le biais de celui qui est le médiateur entre Dieu et les humains. Celui qui est mort pour nous, afin que Dieu ne soit plus en colère contre nous en dépit de notre méchanceté. Par la foi en Jésus-Christ, nous accédons directement au Dieu de l'univers en nous rappelant sa majesté et ses actes merveilleux. Oui, comme il nous est dit dans l'Épître aux Hébreux, nous entrons dans les sanctuaires de Dieu dans ce sens figuré. Nous nous approchons de Dieu grâce au sacrifice de son Fils. Vous connaissez peut-être le beau cantique. Je crois à ton sacrifice, Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le saint lieu. Nous nous approchons de Dieu tout seul, chez nous, la Bible ouverte, grâce au sang de Jésus qui a coulé en notre faveur. Et nous le faisons collectivement lorsque nous nous réunissons, par exemple, le dimanche matin. Et alors, qu'est-ce que cela change? Est-ce que ça veut dire qu'en nous approchant de Dieu, en passant un peu de temps dans la prière, en venant à une rencontre comme celle-ci, que nous ne souffrirons plus à cause de notre foi? Que nous jouirions de la santé physique, de la richesse, de la popularité, etc. Non, il n'y a aucun indice dans le texte qui permettent de croire que les circonstances pénibles du psalmiste aient été réglées. En revanche, ce qui est réglé, c'est sa vision de la réalité. Et cette réalité présente deux aspects, la réalité ultime et la réalité invisible du présent. La réalité ultime, d'abord, je lirai à partir du verset 17. Jusqu'à ce que j'arrive au sanctuaire de Dieu, alors j'ai compris le sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les précipites dans la tourmente. Comment ? En un instant, les voilà en pleine désolation. Ils sont à bout, achevés par l'épouvante. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton éveil, tu repousses leur image. Les gens de ce monde qui rejettent le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ appellent sur eux le terrifiant jugement de Dieu. Ce jour-là, leur santé, leur assurance, leur population,